C'est une prédication. Nous-mêmes, à la maison, on ouvre nos Bibles, on commence à lire les choses, mais on lit la Bible comme on lit n'importe quel livre. Mais ce n'est pas le cas. Ce livre est inspiré de Dieu. Il y a de la vie à l'intérieur de ce livre. Et aussi, il y a un principe qu'on trouve dans la parole de Dieu qui dit que ce que nous croyons de notre cœur et nous déclarons de notre bouche s'accomplit. C'est un principe qu'on voit partout dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi on aime faire cette petite déclaration. Et donc, si vous avez une Bible avec vous, ou sinon, il y a un bulletin avec presque tous les versets que nous allons lire ensemble, que vous allez trouver à l'intérieur de votre bulletin. On va prendre la Bible, on va prendre la feuille, on va faire cette déclaration pour bien préparer nos cœurs pour recevoir la parole. OK, tout le monde, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai pour toujours transformé. Au nom de Jésus. Amen. Juste une bonne chose qu'on fait pour se rappeler de l'importance de la parole. Et ce matin, j'ai bien hâte de partager le message. C'est en fait le quatrième message dans une série qu'on a commencé, trouver du sens dans un monde insensé. Et tout le monde est d'accord que notre monde est de plus en plus insensé, hein? N'est-ce pas vrai? On voit des personnes qui sont fous, vraiment capotées, on dirait en bon français, et les choses ne vont pas bien dans le monde. Sauf que pour ceux qui connaissent Jésus, c'est une autre histoire. Parce que la Bible nous montre que dans les derniers temps, la noirceur va devenir de plus en plus noire, mais la lumière va devenir de plus en plus luisante. Amen? C'est-à-dire que les enfants de Dieu vont briller au milieu d'une génération perverse comme des flambeaux. Ceux qui portent la parole de la vie. Nous avons une raison d'être ici sur la terre. Et comme nous avons vu la semaine passée, Dieu nous a appelés à être les économes, les administrateurs, les gérants de tout ce qu'il nous a confié. Et on va lire notre texte principal encore ce matin en 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 15 qui dit « Et pourquoi est-il mort pour tous? Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne comptent pas amener, les enfants ont un bon temps ce matin, selon leur gré, une petite vie égoïste. Mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. » Donc, on voit vraiment qu'on a un choix. Soit on peut continuer à mener une petite vie égoïste, centrée sur soi-même, ou on peut trouver une vie abondante, une grande vie qui a de l'importance, qui va faire un impact, pas juste pour nous personnellement, mais qui va faire un impact sur toute notre société. Combien de vous croyez que vous avez quelque chose à l'intérieur de vous, que le Seigneur veut se servir de cela pour faire un impact dans votre entourage? Amen. Vous êtes appelés de Dieu. Vous êtes un de Dieu. Vous avez un plan et une destinée que Dieu a formé sur vous avant la fondation du monde. Mais la seule façon qu'on va trouver son plan et la seule façon par laquelle on va accomplir cette destinée, c'est de vivre pour lui au lieu de vivre pour nous-mêmes. Et on a dit, dans le fond, il y a quatre choses. Les quatre T. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi les quatre T? Notre temps, nos talents, nos trésors, et notre temple, toutes ces choses, il faut reconnaître que ces choses appartiennent à Dieu. Et si on investit notre temps, nos talents, nos trésors et notre temple pour faire la volonté de Dieu, on va être heureux, on va être épanoui, on va trouver notre raison d'être. Et en plus, le monde qui nous entoure va être béni. N'est-ce pas merveilleux? Et aujourd'hui, on va parler du premier T, notre temps. Est-ce que vous avez le temps pour m'écouter? Tant mieux. Parce que, et juste avant de commencer, laisse-moi vous poser une question. Combien de vous aimeriez se lancer à chaque jour, hein, tous les jours, 365 jours par année, quelqu'un mettrait 186 000 $ dans votre compte à banque? Est-ce que vous aimeriez ça? 186 000 à tous les jours. Hein? Sauf que, il y a juste une chose. À minuit, le solde du compte retombe à zéro. C'est-à-dire que tu commences à minuit 1 avec 186 000 $ dans votre compte et vous avez 24 heures exactes pile pour dépenser 186 000 $. Et ce que vous n'investissez pas, ce que vous n'utilisez pas, vous allez perdre. Ça, c'est, combien de vous croyez que vous serez capable de trouver quelque chose à faire avec 186 000 $ par jour? Hein? Il n'y a pas grand monde qui aurait de la difficulté à faire ça. Et vois-tu, quelqu'un qui est sage, parce que dans le fond, il y a trois choses qu'on peut faire avec l'argent. On peut dépenser l'argent, vous êtes d'accord? On peut même gaspiller l'argent. Ou on peut investir l'argent. Et quelqu'un qui est sage, hein, au lieu de gaspiller même un dollar de son compte, au lieu de perdre un dollar, parce que une fois que c'est minuit, le compte va retomber à zéro. Moi, je sais qu'est-ce que je ferais. Si je n'étais pas capable, pour une raison quelconque, de dépenser tout le 186 000 avant minuit, je ferais tout mon possible pour amener la balance et le placer quelque part pour avoir encore plus d'intérêt, pour ne pas perdre l'argent. Et vous, qu'est-ce que vous ferez? Au lieu de gaspiller, au lieu de perdre, au lieu juste de dépenser pour les choses inutiles, j'investirais mon argent pour que cet argent pourrait faire encore plus. Et c'est la même chose avec votre temps. Parce que savez-vous que chacun de nous avons 186 000 secondes par jour. 186 000 secondes par jour. Qu'est-ce que vous faites avec vos 186 000 secondes par jour? Voulez-vous savoir qu'est-ce que la plupart des gens font avec? J'ai même quelque chose de bien intéressant que j'ai trouvé. J'ai partagé un peu ces choses dans le passé. Mais ils ont fait une étude, ils ont fait les calculs. Et personne qui va vivre 70 ans sur la Terre, il va passer en moyenne de 23 ans juste pour dormir. Quelque chose, n'est-ce pas? Imagine que vous avez 70 ans pour vivre. En moyenne, ici en Amérique du Nord, en moyenne, les personnes vont dormir 23 ans. Ils vont travailler 16 ans. Ils vont regarder la télévision 8 ans du temps. Quelque chose, n'est-ce pas? C'est 11% de leur vie. Ils vont manger pendant 6 ans. Ils vont être en train de voyager ou prendre en transport, soit l'auto, l'autobus ou marcher pendant 6 ans de leur vie. 8,6% de leur vie. Ils vont passer 4,5 ans de leur vie pour les loisirs. Et dans, ça, c'était une étude pas faite pour les chrétiens, là, mais laisse-moi vous dire, il y a en moyenne de 4 ans que les gens vont passer au lit en étant malades. Quelque chose, n'est-ce pas? Ça va prendre 2 ans pour s'habiller. Il y a des messieurs ici qui disent, oui, mais hein, ça prend ça à chaque jour pour ma femme de s'habiller, hein? Non. Devrais pas dire cela. Pas ma femme, elle est rapide. La religion, et eux autres, comme je dis, c'est pas un sondage chrétien, mais ils ont dit pour la religion, le moyen, les gens vont passer 0,5 ans, même pas un an pour la religion. Ils ont passé 8 ans pour la télévision, mais même pas une moitié d'une année pour la religion. Ça fait un total de 70 ans. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Quelque chose vraiment de considérer. Et je pensais à ça l'autre jour, hein, il y a quelques années en fait, je pensais à ça. Combien je suis heureux qu'on n'est pas obligé de vivre nos vies dans les blocs de temps. Hein? C'est comme par exemple, salut chérie, il faut que j'aille au travail, c'est le temps de travailler, je reviens dans 16 ans. Ou c'est le temps pour moi de m'habiller, donc dans 2 ans je vais être prêt. Hein, imagine, hein, les personnes qui vont regarder la télévision. OK, chérie, je vais regarder un match de football, je vais finir dans 8 ans. Imaginez, quand on voit, parce qu'on ne vit pas dans les tranchées des années, on vit dans les tranchées des secondes, des minutes et des heures, n'est-ce pas? Mais les secondes et les minutes et les heures, toutes mises ensemble, c'est quelque chose. C'est le pouvoir, la puissance de la multiplication. Et quand on regarde notre vie comme ça, et on se rend compte du fait que nous sommes supposés de bien gérer le temps que Dieu nous a donné, c'est quelque chose. Hein? Quelques autres statistiques. Ils ont dit que ça prend d'habitude, les personnes vont passer 2 ans de leur vie juste pour essayer de retourner les appels, mais les personnes qu'ils appellent ne seront pas chez eux. 2 ans de ta vie, tu vas essayer de rappeler les gens. Ils sont pas là. Hein? Vous allez faire 4 ans du ménage à la maison. Vous allez attendre dans les lignes, à la banque, à la caisse. Vous allez attendre à la pizzerie. Vous allez passer 5 ans de votre vie juste pour attendre dans un fil. Quelque chose, n'est-ce pas? 5 ans de votre vie. Quelque chose. Et vraiment, et vous allez passer à peu près 6 mois devant les feux rouges. 6 mois. Combien je suis content qu'il ne faut pas le faire dans un bloc de temps. J'arrête. 6 mois plus tard, j'avance. Mais c'est ça. C'est quelque chose quand on considère le temps. Et dans vos notes, je veux juste que vous regardiez plusieurs choses. Hein. La première chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est que notre temps sur la terre est limité. Notre temps ici sur la terre est limité. On n'a pas une éternité pour faire qu'est-ce qu'on a besoin de faire ici sur la terre. On a un temps qui est limité. C'est vraiment limité. En fait, il y a plusieurs versets que j'ai mis dans vos notes. Psaume 39, verset 4 dit, « Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. » Je pense que si on va être des bons économes, des bons gérants, des bons administrateurs du temps que Dieu nous a confié, il faut se rendre compte de cela. Tout d'abord, notre temps sur la terre est limité. Ça, c'est vraiment la tromperie, on dirait, de la jeunesse, n'est-ce pas? Quand on est jeune, surtout, on pense que la vie est sans fin. On a toute notre vie devant nous et on a l'impression que ça va durer toujours et toujours. Et c'est pourquoi on a une tendance à remettre à notre temps les choses les plus importantes, n'est-ce pas? Combien des jeunes, moi je sais, quand j'étais jeune, à l'âge de 13, 14, 15 ans même, j'ai dit, bien, peut-être un jour je vais vivre pour Jésus. Un jour, je vais vraiment consacrer ma vie au Seigneur Jésus. Mais moi, j'ai du temps en masse devant moi, donc il n'y a rien qui presse. Quel mensonge! Parce que, vois-tu, je suis convaincu que plus on vit pour Jésus, plus on est heureux. Amen? Et quand, heureusement, j'ai eu une expérience avec le Seigneur assez tôt, et 16 ans, presque 17 ans, ma vie a été vraiment, vraiment transformée par la puissance de Dieu. Et c'est quand même jeune, 16, 17 ans, je commençais à vivre à 100% pour Jésus, et j'ai jamais eu des regrets. Avant, j'avais peur de manquer quelque chose. Si je vis pour Jésus, je vais manquer. Mais c'était le contraire. Mais notre vie est fragile. En fait, en Jacques, chapitre 4, verset 13, regardons. Ça, c'est dans la parole vivante. La parole de Dieu dit, « Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville. Nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons beaucoup d'argent. Savez-vous ce que l'avenir vous réserve? S'il y a même un demain pour vous? Qu'est-ce que votre vie? Une légère brume visible, quelques instants, et qui se dissipe bien vite. » Une autre traduction dit que vous êtes une vapeur qui va apparaître pour une minute, mais qui va bientôt disparaître. Dites plutôt, si le Seigneur veut bien, ou si nous sommes encore en vie, nous ferons ceci ou cela, alors que vous, vous êtes fiers de vos grands projets et vous vous en vantez. Sachez qu'un tel orgueil est coupable. Donc, on voit que qu'est-ce que Dieu veut? Il ne veut pas qu'on vit comme si on avait toute une éternité pour faire qu'est-ce qu'on a besoin de faire ici sur la terre. Dieu veut qu'on se rende compte du fait que notre vie sur la terre est limitée. La plupart des gens vont vivre en moyenne de 70, 75 ans. La Bible dit qu'on pourrait même vivre jusqu'à 120 ans. Il n'y a pas grand monde qui arrive à 120, mais mon plan à moi, c'est de viser 120. Amen. Et puis, ça c'est mon plan. Hein? Est-ce que j'ai dit que je vais sûrement vivre à 120? Je ne sais pas. Moi, je crois fermement que le Seigneur Jésus va revenir bien avant ça. Ça, c'est ma conviction. Et c'est encore plus raison pour laquelle il faut savoir notre temps sur la terre est limité pour deux raisons. Premièrement, parce que si le Seigneur ne revient pas, mon corps va s'user et va mourir. Mais deuxièmement, le Seigneur Jésus revient bientôt. Amen. Notre temps sur la terre est limité. Et nous avons besoin de se rendre compte de ce fait. Mais deuxième chose qu'on va voir, c'est dans vos notes, c'est que Dieu confie à chacun de nous le même nombre d'heures par jour. Il nous demande de bien gérer notre temps afin d'accomplir sa volonté. N'est-ce pas merveilleux? Il n'y a pas une personne dans cette salle qui a 25 heures par jour. Il n'y a pas une personne qui a 8 jours par semaine. J'ai souvent dans le passé, je pensais, oh, que ça serait merveilleux d'avoir 8 jours dans la semaine. Combien de vous, vous avez eu cette pensée? Juste 2, ça m'étonne. Soyez honnête, hein? Combien de vous, vous avez au moins eu pour quelques secondes? J'aimerais, ou combien de vous, vous avez dit, oh, j'ai tout simplement besoin de plus de temps? Tout le monde l'a dit, hein? Oh, j'ai besoin de plus de temps! Ça, c'est pas vrai. Autrefois, je disais cela, et même des fois, aujourd'hui, je suis tenté à le dire. Mais en réalité, c'est pas la vérité. Parce que Dieu a confié 186 000 secondes par jour à tout le monde. 7 jours dans une semaine, pour tout le monde. Personne n'a plus, personne n'a moins, mais qu'est-ce qui est important, c'est la façon qu'on va gérer ce temps. Amen? C'est ce que nous faisons avec ce temps qui est important. Et qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous accomplissions sa volonté. Il y a un verset vraiment frappant. En Pierre, chapitre 4, verset 2. Regardons. C'est dans la parole vivante encore. Afin de vivre désormais selon la volonté de Dieu. Tout le monde dit selon la volonté de Dieu. Et non plus selon le désir humain. Pendant tout le temps qui lui reste à passer dans son corps. Vous savez, on a un temps limité qui nous reste à passer dans nos corps. En effet, vous avez gaspillé assez de temps autrefois. Combien de vous pouvez dire que c'était le cas dans votre vie? Moi, je peux dire, même si j'ai commencé à servir le Seigneur vraiment à l'âge de 17 ans, je peux quand même dire que j'ai gaspillé trop de temps autrefois. Parce que un second, oh, la volonté de Dieu, c'est trop long. Amen? Mais la bonne nouvelle, surtout pour ceux qui sont venus au Seigneur plus tard dans la vie, la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut vous aider à restaurer qu'est-ce que l'ennemi a volé et qu'est-ce que vous avez gaspillé. Amen? Il y a des choses que vous pouvez faire dans le restant de vos jours, que vous pouvez faire 100 fois plus que vous avez fait jusqu'à date, si vous savez comment gérer votre temps pour le succès et si vous savez comment être un bon économe du temps que Dieu vous a confié. En effet, vous avez gaspillé assez de temps autrefois en vivant selon les caprices des païens, en vous adonnant à la débauche, aux passions sensuelles, à la boisson, aux orgies, aux beuveries et à toutes sortes de pratiques honteuses accompagnant les cultes idolâtres. Donc, Paul est en train de dire ici, est en train de dire ici que, écoute, vous êtes maintenant les enfants de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Autrefois, vous avez gaspillé assez de temps dans votre vie. Vous avez fait votre volonté. Vous avez mené une petite vie égoïste en faisant toutes sortes de débauches. Et tout le monde ici était dans le même camp. Vous êtes d'accord? Personne ne peut se vanter. On est sauvés par la grâce. Nous avons tous fait des erreurs. Nous avons tous fait des gaffes. Nous sommes tous nés avec une nature pécheresse. Et nous étions tous privés de la gloire de Dieu à cause du péché. Mais maintenant, nous avons la vie éternelle, nous sommes nés de nouveau, nous avons une nouvelle nature, et nous avons l'occasion de mener une vie abondante au lieu de mener une petite vie égoïste. Mais il a dit, vous avez déjà gaspillé assez de temps. À partir d'aujourd'hui, vous allez vivre pour la volonté de Dieu. Tout ce que vous faites, à chaque fois que vous dépensez une seconde de votre vie, il faut l'investir dans le royaume de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Amen? Alléluia! Et ça, c'est la vraie vie. Quand on vit chaque minute et chaque heure pour la gloire de Dieu. Est-ce que c'est possible? Oui. Et on va voir comment c'est possible dans quelques minutes. Alléluia! Mais savez ceci, sachez que vous avez assez de temps pour faire la volonté de Dieu. Tout le monde dit, j'ai assez de temps pour faire la volonté de Dieu. Si vous pensez que vous n'avez pas assez de temps pour faire la volonté de Dieu, vous vous êtes trompé. Tout ce que Dieu veut que vous fassiez, vous pouvez faire, vous avez assez de temps pour le faire. Mais il faut bien gérer son temps afin de le faire. Troisième chose qu'on voit dans nos notes, c'est que la vie ici sur la terre est trop courte. Et l'éternité est trop longue de ne pas faire la volonté de Dieu. Ça, c'est une chose que je veux que vous saisissiez. J'ai cette petite phrase grâce à ma femme, parce que je m'en souviens en 91, ou je pense que c'était en 91, notre premier fils venait de naître, Andrew, et on savait que Dieu nous appelait à déménager en France et pour servir le Seigneur en France. Et la chair ne voulait pas. Parce que on venait juste d'avoir le premier enfant, et laisse-moi vous dire, les grands-parents ne voulaient surtout pas. qu'on parte. Parce que le premier grand petit-fils de côté de ma femme, et puis vraiment, il n'était pas content, gracieux, mais pas content quand on a dit qu'on parte. Et même nous, on avait les hésitations, parce que notre famille, notre ville, notre pays, on ne voulait pas vraiment, mais on voulait dans le cœur. Amen. La chair ne voulait pas, mais le cœur voulait vraiment, parce que c'était le plan de Dieu. Mais je m'en souviens, Tania a dit, et elle a même écrit souvent, mis ça sur le frigo, « La vie est trop courte et l'éternité est trop longue de ne pas faire la volonté de Dieu. » Et on a dit, « Vois-tu, je sais que mes enfants vont être plus bénis si je fais ce que Dieu nous demande de faire. » Dans le fond, la meilleure place pour notre famille, c'est le centre de la volonté de Dieu. On aurait pu dire, « Non, 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 on veut sauver notre vie, mais on aurait pu tout perdre aussi. » Mais là, on est béni. Combien nous sommes contents d'avoir fait la volonté de Dieu. Et ça nous a amené même ici au Québec. Alléluia. Il y a un verset que je voulais lire. En 1 Corinthiens chapitre 3. « Certains utiliseront de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations. D'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu, et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. Si quelqu'un a édifié un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense. Par contre, si l'ouvrage est brûlé, son auteur perdra la récompense. Cependant, lui-même sera sauvé. » Soulignez cette partie-là. Lui-même sera sauvé. Mais comme s'il avait passé à travers les flammes d'un incendie. Je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le don gratuit de la vie éternelle, et ils connaissent Jésus-Christ personnellement dans leur vie, mais ils sont en train de gaspiller leur temps ici sur la terre. Ils n'investissent pas leur temps dans les choses éternelles. Ils vont passer tout leur temps dans les choses qui ne sont pas forcément les péchés, mais les choses qui ne bâtissent pas non plus le royaume de Dieu. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Et ces personnes, une fois qu'ils vont mourir un jour, et selon ce verset-là, ceux qui sont vraiment nés de nouveau, ils ne vont pas aller à l'enfer. Ils vont être quand même sauvés, mais ils vont être sauvés comme des personnes qui viennent de s'échapper d'un feu, d'un incendie. Hein, vous savez, avez-vous vu des fois à la télévision, qu'est-ce que ça a l'air, une personne qui vient de s'échapper d'un incendie? On voit des fois des personnes qui sont dans leur pyjama, hein, en train de regarder leur maison et tout leur bien disparaître dans les flammes d'un feu ou d'un incendie. Mais eux autres, ils sont sauvés. Ils sont pas perdus dans les flammes, mais quand même, tout ce qu'ils avaient, tous leurs biens sont disparus. Et ça va être l'image de beaucoup de personnes qui arrivent auprès du Seigneur, parce que la Bible est claire, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ pour recevoir une récompense pour qu'est-ce qu'on a fait ici dans le corps. On n'est pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes quand même sauvés pour des bonnes œuvres. Dieu a un plan pour notre vie. Et c'est ça que je ne veux pas. Je ne veux pas apparaître devant le Seigneur en sachant que j'aurais pu faire avec mon temps davantage pour le royaume de Dieu. Moi, je veux avoir investi mon temps, pas gaspillé, pas juste dépensé, mais vraiment investi mon temps pour l'œuvre de Dieu et pour faire la volonté de Dieu. Et vous? Alléluia. Alléluia. Donc, comment est-ce qu'on peut le faire? Comment est-ce qu'on peut gérer notre temps pour le succès? 3 conseils pratiques ce matin. C'est vraiment un message pratique. Première chose à faire, c'est d'établir vos priorités. Établissez vos priorités. C'est quoi qui est la chose la plus importante dans votre vie? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment trompés là-dessus. Ils sont dans la confusion. Ils mettent plus d'accent sur les choses matérielles que sur les choses spirituelles. Les gens ont leur priorité vraiment, vraiment à l'envers. Combien de fois est-ce que je parle avec des personnes et je commence à témoigner et je parle de Jésus et de la vie éternelle? Et qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent, écoute, c'est bien beau, je crois en Jésus, mais franchement, je n'ai pas le temps de vivre pour Jésus. Est-ce que vous avez entendu cela? Moi, je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Moi, je n'ai pas le temps de vivre pour Jésus. Je n'ai pas le temps de l'accepter comme je suis trop occupé avec mon travail, avec mes enfants, avec toutes ces choses-là. Je ne peux pas me permettre de servir Jésus. Je n'ai pas le temps de lire la parole. Je n'ai pas le temps de prier. Je n'ai pas le temps. Combien de vous avez rencontré des personnes comme ça? Jusqu'à... Non, vois-tu? Presque tout le monde. Mais ce n'est pas vrai. Parce que qu'est-ce qu'on voit, c'est que si on a nos priorités vraiment, vraiment dans la bonne place, toutes les autres choses vont suivre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Cherchez d'abord, en première place, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen? Donc, si vous voulez bien gérer vos temps, il faut bien établir vos priorités. Bien établir vos priorités. Et encore, qu'est-ce qui est la chose la plus importante? C'est notre relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu doit être la priorité numéro un. Après ça, selon qu'est-ce que je vois dans la Bible, c'est ma relation avec ma famille. Et troisièmement, c'est mon ministère ou mon travail. Dieu, famille, travail ou ministère. Dieu, famille, travail ou ministère. Tout le monde dit Dieu, famille, travail. Si on met les choses à l'envers, ça ne marche pas. Je connais même des pasteurs qui ont mis leur ministère, par exemple, devant Dieu. Ils aiment plus le ministère qu'ils aiment Dieu. Ils prient plus, ils n'ont plus vraiment une relation avec Dieu. Ils prêchent, ils font toutes les choses machinalement. Ils aiment le ministère plus qu'ils aiment Dieu. Il y a beaucoup qui ont perdu leur femme et leur famille parce qu'ils ont aimé le ministère plus que leur famille. C'est vrai, n'est-ce pas? Combien de personnes vous connaissez qui ont perdu leur famille parce qu'ils ont aimé leur travail plus que la famille? Moi, j'aime le football. Il y a une équipe au Texas, les Cowboys de Dallas. Vous avez entendu parler d'eux? Et on voit le contraste parce qu'eux autres, ils ont eu deux coachs, deux entraîneurs principaux. Et un coach était vraiment un homme de Dieu. Et quelqu'un lui a posé la question, « Pourquoi est-ce que tu as eu tant de succès? » Il a dit, « C'est parce que j'ai toujours gardé mes priorités. Dieu d'abord, ensuite ma famille et ensuite le football. » Mais quelqu'un, un autre coach, dans la NFL, dans la Ligue nationale de football, lui, quand il était, je ne vais même pas mentionner son nom, ce n'est pas important, mais juste pour vous montrer, lui, quand il était coach pour une université, okay, c'était un milieu familial, tous les parents envoyaient leurs enfants à l'université, lui, il a dit, c'est bon pour moi d'être marié et d'avoir des enfants parce que ça va apparaître vraiment bien aux yeux de tous les parents. Ils vont voir que je suis un père et que je peux prendre soin de leurs enfants. Donc, il était marié pendant 26 ans. Mais la journée qu'il était choisi pour devenir coach d'une équipe NFL, de Ligue nationale de football, il s'est divorcé avec sa femme parce qu'il a dit « Je n'ai plus besoin d'elle parce que dans la Ligue nationale, ça fait rien si on est marié ou non. » Donc, il s'est divorcé avec sa femme tout de suite. Il a dit « Elle va juste être une distraction. Mon but, ma priorité numéro un, c'est de gagner au football et de gagner le Super Bowl. » Il a gagné aussi, mais... Regarde qu'est-ce qu'il a perdu. Combien de personnes sont comme ça? Des personnes qui vont... toutes leurs priorités sont vraiment confuses. C'est comme il y avait deux personnes qui sont allées à la chasse, au chevreuil. Et puis, à un moment donné, il y avait un de monsieur qui revient du bois avec un gros chevreuil vraiment pesant. Il était en train de l'entraîner avec lui. C'est pesant. Mais il arrive... Sa femme et la femme de l'autre le voient et dit où est Robert? Où est-ce qu'il est? Oh, je ne sais pas, je pense qu'il a fait une crise cardiaque il y a quelques kilomètres en arrière. Mais pourquoi est-ce que. Qu'est-ce que tu fais là? Il a dit oh, mais tu sais, j'avais un choix à faire et je savais que personne ne voudrait voler Robert. Donc, c'est pourquoi j'ai amené le chevreuil. Ça, c'est un joke, mais un peu plate. Mais combien de personnes ont ri, mais les personnes qui sont presque prêtes à faire les choses comme ça, leurs priorités ne sont pas correctes. Mais nous, si nous voulons bien gérer notre temps, il faut vraiment établir nos priorités. Dieu d'abord, ensuite la famille et ensuite le travail. Amen. Deuxième chose bien pratique, développer et suivre un plan d'action. Je sais que pour moi, je suis une personne que pour moi, bien gérer le temps, ce n'est pas une chose qui vient naturellement. Ça fait partie de ma personnalité et mon tempérament. Il y a deux catégories de personnes. Des personnes, catégorie 1, qui sont hyper, hyper organisées. Et tout est toujours, toujours organisé. Tout. Et il y a d'autres personnes qui ont besoin de travailler pour être organisées. Et ça, c'est moi. Hein? Et en fait, une autre chose, ça, c'est 75% de la population, selon les études qu'ils ont faites. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'un calendrier, qui n'ont pas besoin d'agenda. Ils n'ont pas besoin de ces choses parce que, naturellement, ils sont déjà organisés. Mais moi, je sais que si je n'ai pas mon agenda avec moi et si je ne l'utilise pas, je ne fais pas qu'est-ce que je peux faire. Et je gaspille du temps, je perds du temps. Mais si à chaque début de la semaine, je regarde ma semaine, et même au chaque début du mois, je regarde en avant, je regarde l'année en avant, je regarde vers le milieu ou fin du mois, le mois prochain, et je vois qu'est-ce que j'ai besoin de faire, et j'écris qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Et là, au début de chaque semaine, soit dimanche soir ou lundi matin tôt, je regarde toute ma semaine et j'écris qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Là, je suis capable de gérer mon temps. Et peut-être c'est le cas pour vous aussi. Vous devriez établir vos priorités. C'est comme il y avait dans les années 1930, il y avait un monsieur Schwab. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'était un millionnaire, un des hommes les plus riches qui avait une compagnie qui allait très bien. Mais il a demandé à un consultant de venir le voir. Et il a dit... qu'on peut produire plus et avoir plus d'efficacité et ça marche, je vais vous payer n'importe quoi que vous voulez aussi longtemps que c'est raisonnable. Donc, tout ce qu'il a dit à M. Schwab de faire, c'est OK, bon, prenez un morceau de papier et écrivez les choses que vous avez besoin de faire cette semaine. Et maintenant, numérotez ces choses en ordre d'importance. Et commencez avec la chose la plus importante. Et continue jusqu'à ce que vous avez terminé, puis fait le deuxième. Et ne soyez pas inquiets si vous ne finissez pas toute la liste, mais juste continuez comme ça. Et en 1935, il a envoyé un chèque de 35 ou 30 000 $ à ce monsieur, juste pour avoir dit cela. Et en 1935, les journées de la dépression, 30 000 $ c'était comme des millions. Amen. Et ça, c'est ce que je fais et c'est la seule chose qui me sauve. Parce que, comme je dis, naturellement, ce n'est pas une chose que je ne suis pas naturellement doué pour organiser les choses comme ça. Mais si je le fais, ça marche et on accomplit beaucoup. Et moi, j'ai trois catégories. J'écris les listes de qu'est-ce que j'ai à faire. Je vais mettre soit lettre A, B ou C. Lettre A veut dire qu'il faut absolument que ça soit fait aujourd'hui sans faute. B veut dire que c'est important, ça devrait être fait aujourd'hui, mais si je n'ai pas le temps, ça peut aller à demain. Et lettre C, c'est une bonne chose, mais dans le fond, ce n'est vraiment pas prioritaire. Et je le fais comme ça. Si j'ai 10 choses, je vais écrire A, B ou C à côté de chacun, et puis je vais écrire A1, A2, A3, A4. C'est la seule chose qui m'aide. Trouvez votre propre système, établissez votre propre plan. C'est une chose pratique, mais laisse-moi vous dire... Vous dites, pourquoi est-ce qu'on parle de ça à l'Église? C'est parce que votre temps est précieux. Amen? Et si Dieu veut que vous accomplissiez les choses pour sa volonté, il faut bien gérer son temps. Vous avez 186 000 secondes par jour, il faut les bien gérer. Et la troisième chose, et on va finir là, c'est qu'il faut chercher le plan divin dans votre vie quotidienne. Cherchez le plan divin dans votre vie quotidienne. C'est bon pour nous de faire un plan d'action, mais qu'est-ce qui est encore plus important? C'est de réaliser que selon Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage. Nous sommes créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance afin que nous les pratiquions. Moi, je suis convaincu de ceci, c'est que avant que j'aie été formé et tissé dans le ventre de ma mère, Dieu savait que je serais là. Et Dieu savait que tu serais là. Est-ce que vous êtes d'accord? Et Dieu sait, cette semaine, par exemple, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses. Il y a des choses que Dieu veut que tu fasses. Et qu'est-ce qu'il faut faire, c'est de chercher le plan divin dans les choses ordinaires. Et il y a trop de chrétiens qui vont se tromper parce qu'ils pensent, OK, je vais juste donner à Dieu une heure au début de ma journée, ou une heure le dimanche, ou deux heures le dimanche, et les autres heures qui restent, je vais utiliser pour moi-même. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut réaliser que 24 heures sur 24 appartiennent au Seigneur. Amen? Donc, si vous êtes à l'église, il faut investir votre temps pour le Seigneur. Mais si vous êtes au travail, travaillez pour le Seigneur. Si vous jouez au golf, jouez au golf pour le Seigneur. Soyez conscient de sa présence. Et savez-vous qu'est-ce qui se passe? Ça se peut que sur le terrain de golf, tu vas rencontrer un autre monsieur qui a besoin de Jésus. Amen? Et à ce moment-là, tu peux racheter le temps. Ce n'est pas juste un tournoi de golf, mais c'est aussi un champ missionnaire. Amen? Si vous allez faire l'épicerie, au lieu juste d'aller faire l'épicerie et penser, OK, maintenant c'est le temps de faire l'épicerie. Non, je fais l'épicerie avec une conscience du fait que Dieu est avec moi et je vais aller faire mes commissions avec l'aide de Dieu et je vais être au diapason du Saint-Esprit et ça, je peux que tu vas rencontrer quelqu'un au magasin qui a besoin de Jésus. On passe 6 ans dans l'auto, pourquoi pas prier? Prier dans l'esprit, avoir un temps de l'adoration dans l'auto. Vois-tu, il y a des choses qu'on peut faire dans la vie quotidienne pour racheter le temps, pour investir notre temps. Je crois qu'on devrait être toujours conscient de la présence de Dieu, peu importe ce que nous faisons. Et vous? Il y a trop des gens qui sont trop spirituels. Ils pensent qu'il faut avoir les genoux fléchis, il faut avoir la Bible ouverte, ou il faut être assis dans une église pour avoir un temps dédié à Dieu. Non. Et on peut, oui, consacrer un temps au début de la journée pour chercher la face de Dieu, pour prier, pour étudier la parole. Mais tout au long de la journée, on peut être au diapason de l'esprit. Et on va juste lire pour finir Éphésiens 5, 15 à 18 dans la parole vivante. Veillez donc avec un soin tout particulier à votre manière de vivre. Agissez avec la conscience de votre responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour sans penser à plus loin. Combien de personnes y vivent de jour en jour sans penser à l'éternité? Savez-vous que je veux vraiment que vous saisissiez la prochaine fois que vous faites quoi que ce soit, même si c'est bien normal, bien naturel, sachez que vous êtes vraiment en mission pour Dieu. Amen? Ne vivez pas au jour le jour sans penser au plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. On parle de comment trouver du sens dans un monde insensé. Comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps. Tout le monde dit maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables, malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément parce que nous vivons en temps où domine le mal. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables ou imprudents, ne vivez pas en dilettante, mais à travers tout ce qui vous arrive. Soulignez cette partie. À travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, comment on dit toutes circonstances, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire, puis tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. C'est la voie qui mène à une vie de plénitude. C'est ça que nous voulons, n'est-ce pas? Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez à longue traits à la coupe de l'Esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Mais j'aime tellement la partie qui est marquée à travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire, puis tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. Ça, c'est la recette de comment gérer bien votre temps. N'importe quelle circonstance, n'importe quelle place, que ce soit au magasin, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, dans l'auto, quand vous prenez votre marche, en tout temps, vous cherchez à comprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans cette circonstance? Est-ce que vous voyez la puissance en qu'est-ce que je dis? Imaginez si chacun de nous, aujourd'hui même, en quittant l'église, on se met vraiment au diapason, on met nos antennes spirituelles tout au long de la journée. On dit, OK, Seigneur, aujourd'hui, je mange telle place, je fais la course telle place. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire dans cette circonstance? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette circonstance? Parce que si je le fais, je vais racheter le temps, je vais bien gérer mon temps, et à la fin de ma vie, je vais être récompensé pour avoir bien investi les 186 000 secondes par jour que tu m'as confiées. C'est ça que vous voulez, n'est-ce pas? Amen. Des choses pratiques ce matin. On va se lever debout, on va prier. Alléluia. Il est temps de vivre pour Jésus. Merci, Père Céleste. On va juste, Tania va jouer un peu, on va prier avant de partir aujourd'hui. Notre vie est trop courte et l'éternité est trop longue pour ne pas faire la volonté de Dieu. Quelle joie de vivre pour Jésus tous les jours de notre vie. Ce n'est pas une vie religieuse, mais c'est une vie abondante qu'il veut nous donner. Une vie abondante, une vraie vie. Tout mon temps lui appartient. Donc, Père Céleste, au nom de Jésus, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Et nous te remercions pour la vie que tu nous as confiée. Notre vie sur la terre est limitée. Et ma prière tout d'abord, Seigneur, comme on fait à tous les dimanches matins, j'aimerais prier pour tous ceux qui peuvent être ici, qui n'ont pas eu la chance de te connaître personnellement. Et avec tous les yeux fermés, peut-être vous êtes ici ce matin et vous dites, « Pasteur, je sais que Jésus est vivant. Je sais qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Je crois de tout mon cœur qu'il est le Fils de Dieu. » Mais en même temps, tu n'es pas capable de dire que tu es vraiment enfant de Dieu. Tu ne sais pas. Peut-être tu espères avoir la vie éternelle, mais tu n'es pas convaincu, tu n'es pas sûr et certain d'avoir la vie éternelle aujourd'hui. Bonne nouvelle. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et par la foi, tu peux confesser avec ta bouche le Seigneur Jésus. Et s'il est ton Seigneur, c'est-à-dire que tu vas vivre pour lui au lieu de vivre pour toi-même. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et comme on fait à tous les dimanches, on aime donner cette occasion pour ceux qui ont besoin de prier et donner leur vie à Jésus, de le faire. Avec les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui lèverait la main en disant, « J'aimerais que tu pries pour moi, j'aimerais donner ma vie à Jésus aujourd'hui. Je veux vivre pour lui. Je sais que ma vie est limitée ici sur la terre. Mes jours sont limités, mes heures sont limitées, mes secondes sont limitées. Je veux les investir pour la gloire de Dieu. Mais avant de commencer, il faut que je le connaisse. » Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a une personne, je pense que c'est sûrement une redédication. Peut-être vous avez déjà dans le passé prié, mais vous avez besoin de redédier votre vie à lui, reconsacrer votre vie à lui. Juste lever la main. Je ne vais pas vous embarrasser. Il y a une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alléluia. On va prier cette prière de consécration. Je vous invite de répéter après moi. Père Céleste, je t'aime de tout mon cœur. Et aujourd'hui, je te donne toute ma vie. Tu m'as confié 24 heures par jour. Enseigne-moi, Seigneur, à bien compter ces jours, afin que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse et faire ta volonté. Toute ma vie t'appartient. Au nom de Jésus. Amen. Amen. N'oubliez pas que mercredi soir, nous avons la réunion de prière. On va faire un chant. Je vous invite de rester pendant le chant et moi, je vais aller à la porte vous donner la main. Mais rachetons le temps, faisons la volonté de Dieu et on va voir un grand impact ici à Drummondville, dans la province du Québec, la francophonie et au-delà.